pour cette journée, depuis ce matin, là où je me suis levé et là où on s'est tous levés jusqu'à maintenant, Seigneur, tu étais au contrôle et je crois que tu es encore au contrôle. Je veux te demander de passer au travers de ma bouche, Saint-Esprit, afin que mes explications, ma préparation, etc., ce soit toi qui conduises, qui dirige et qui impacte, Seigneur, les vies. Je suis vraiment heureux de voir que ça commence à porter du fruit déjà. Mais je ne suis pas satisfait, Seigneur. Je veux voir plus dans la vie de mes amis, de mes frères et sœurs. Et je te demande, Seigneur, de prendre le contrôle ce soir, d'être à l'honneur et que ta parole soit annoncée avec efficacité, avec audace, Seigneur, mais aussi avec puissance, Seigneur. Je te remercie pour tout ce qu'il y a au programme et je te bénis, Père, pour la suite, pour l'œuvre que tu as en chacun de nous. Alors, merci, merci, Amen. Ok, alors, la fois dernière, je vous avais parlé qu'il y avait un verset à apprendre pour celles et ceux qui étaient là. Est-ce que vous avez appris votre verset? Ok, alors, je rappelle simplement, on a des micros à disposition si vous parlez, c'est simplement pour que nos amis en live puissent vraiment nous comprendre et surtout sur l'enregistrement aussi, qu'on ait vraiment toutes les exclamations, etc. Donc, je vous propose que vous. Voilà. Que tu. Ok, que vous. Ok, tu gères cette moitié et Jean, tu gères l'autre moitié. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Alors, qui c'est qui. Alors, pour ce soir, je sais que si je dis qui c'est qui veut réciter le verset, il n'y a personne qui va lever la main. Alors, j'ai fait quelque chose qui va tout départager. Sous votre chaise, et c'est pas moi qui ai choisi où vous allez vous asseoir, sous votre chaise, il y a un petit bout de scotch orange. Et ceux qui ont ce bout de scotch orange, eh ben, c'est parti. Alors, les deux premiers rangs, vous pouvez oublier, c'est derrière. C'est le dernier rang, il fallait pas s'asseoir derrière. Génial. Alors, il n'y en a pas qu'un seul, hein. Il y en a quatre en tout. Vérifiez votre chaise, vous avez un bout de scotch. Il y en a quatre, et en principe, je sais, il y a Ezekiel, il y a Francine, il y a Stella, et puis Nathalie. Génial, vous êtes tous à la bonne place. Alors, je propose qu'on fasse silence. C'est vraiment pas vous mettre dans l'embarras. C'est surtout que cette parole, en plus, ce verset, il est puissant, il est super fort. Je le déclare souvent quand je prends la voiture et je vais au travail. Alors, génial, on va peut-être avoir de l'image. Ok, alors, qui c'est qui veut se lancer? Vas-y, Ezekiel, tu me regardes, t'es chaud là. Alors, prends le micro. Vas-y, essaye. T'as le contexte. J'attends pas les mots, mais l'idée. Allez.
Tu détiens le pouvoir sur le ciel et sur la terre, sur la richesse des. Bon, je sais que c'est pas ça, mais c'est sur la richesse des nations. Et, en gros, l'idée, c'est que tout te revient et que tu donnes et tu ôtes, c'est comme tu veux.
Ok. Alors, que tout te revient, c'est la gloire, l'honneur. C'est vraiment des termes que vous pouvez donner à Dieu. Alors. Ok. Ouais. Alors, Francine, est-ce que tu es ok? On va tous les quatre, vous allez y passer. Trop facile. C'est trop facile. Stella, est-ce que tu. Toi qui es une femme de prière. Ok, Nathalie. Ok, alors, c'est vachement important et je vous demande de prendre au sérieux cette étape. Pourquoi je vous ai demandé, pourquoi on fait ça en fait? C'est vraiment pour que vous ayez vous-même. Moi, ça ne m'importe pas que vous sachiez les versets. Je ne vais pas vous mettre une note ou quoi que ce soit. Le fait qu'on apprenne la parole de Dieu dans notre cœur, c'est que de notre cœur va partir les mots de Dieu. Et je vous avais expliqué que c'est avec la parole de Dieu que les anges sont en action, par exemple, mais surtout que ça grandit la foi et qu'on a besoin de la foi pour que Dieu fasse des miracles dans notre vie. OK? Donc, le verset de ce soir, c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent, on peut le dire, ouais, tous ensemble, si vous avez votre livre, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. Nickel. Et la référence, ça vous permettra de ranger ces versets dans votre tête d'une manière ordonnée. Yes. Ok. C'est vraiment important. C'est pas un jeu. C'est pas une récitation. C'est pas quelque chose où on va s'amuser toutes les fois où on se rencontre. Mais prenez-le au sérieux. Et on va continuer. Je vais pas lâcher l'affaire. Mais et s'il faut que je mette des notes, je mettrai des notes. Mais c'est pas à votre bénéfice. Ok. Alors. Ce soir, on va faire une exception. J'ai, maxi, une demi-heure, 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure, pour revenir sur le point de la dernière fois. Je vous avais dit qu'on allait reparler de l'histoire qui nous a tous fait un peu bizarre dans notre tête en voyant qu'un gérant a été loué par son maître en ayant mal géré. D'accord ? Donc, en fait, ce n'est pas mon explication. Mais je vous propose ce soir une explication tirée d'un livre et je crois que ça va nous éclairer sur beaucoup de points. Vous êtes d'accord de faire ça? Ok. Alors, c'est l'histoire dans Luc 16 du verset 1 à 8. Le contexte, le décor pour comprendre cette parabole, c'est que Jésus en fait est en train de parler, d'enseigner des vérités à ses disciples. Vous le voyez, il est assis à une table, il y a ses disciples autour de lui, et il y a des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation qui sont avec lui. C'est la parole de Dieu qui le dit, et ils sont là autour, ils écoutent. Ils écoutent ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Et quelques pharisiens, les pharisiens, c'est ceux qui sont censés connaître la loi, c'est ceux qui sont en train de représenter Dieu, qui connaissent les lois mosaïques, etc., et qui sont là un peu plus loin et qui sont en train d'écouter aussi. Mais ils voient la scène et ils sont en train de critiquer Jésus. Pareil, c'est écrit dans les versets. Et parce que Jésus donc, est attablé, pas trop loin, ils attendent et ils se moquent. Ils savent ce qu'il dit et puis ils ne sont pas d'accord. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'eux, ils aimaient l'argent. Et là, Jésus, il est en train de parler d'argent avec ses disciples. Voilà le contexte. Alors, justement, cette parabole, il est évident que Jésus profite de la situation. Il voit les pharisiens et dit « Ok, maintenant je vais profiter de la situation pour parler de quelque chose avec vous. » Mais en gros, je pense que le message, il va leur parler aussi. S'ils entendent, s'ils se moquent de moi, on va voir qui c'est qui aura le dernier mot. Enfin, je le vois comme ça et je pense que l'explication va aussi dans ce sens. Donc, l'histoire nous raconte quoi ? C'est un gérant, un administrateur donc, qui a mal géré les biens de son maître. D'accord ? Il doit rendre des comptes de sa gestion. Il sait qu'il va être viré parce qu'il sait qu'il l'a mal géré et que son maître s'en est aperçu. Donc, il le convoque et je pense que ça va être le dernier rendez-vous pour moi qui se dit. Okay ? Donc, il gaspillait les biens du maître. Donc, c'est vraiment le terme gaspiller. Il ne volait pas, mais il gaspillait les biens de son maître. Et apparemment, donc, plusieurs personnes avaient des dettes envers ce fameux maître, d'accord ? En passant par ce gérant. Alors, en ligne, vous suivez toujours ? Vous êtes là ? Super. Alors, ce gérant, justement, il cogite et il laisse place à ses propres raisonnements. Il se dit quoi ? Il dit « je vais être viré, donc il faut que je réagisse ». Et il dit « ah, j'ai trouvé une idée, je vais faire quelque chose » et il se met à planifier, d'accord ? Cette étape est vachement importante. Il voit qu'il va se faire virer. Il comprend avec son intelligence, mais il n'en reste que là, il reste à sa propre intelligence et il dit bah, « il faut que je trouve une solution ». Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un constat et il se dit « ah, moi je ne suis pas assez fort pour travailler », c'est ce qui est écrit. Alors on peut s'imaginer toutes sortes de choses, peut-être qu'il aurait une tendinite à l'épaule ou alors des problèmes de dos, il se dit « ah, moi je suis de toute manière ». Alors il se trouve des excuses et il dit « j'aurais honte de mendier ». Ah, l'orgueil qui commence à monter en lui. Ah, moi, je ne peux pas être quelqu'un qui mendie dans la rue. Et tout. Ok. Donc, il fait ce constat et il y a ces deux réactions. Alors, il fait un plan. Et en faisant son plan, juste grâce à sa propre intelligence, il se sert seulement de sa propre intelligence et du système économique de ce monde. Donc, il se dit, ok, J'ai une idée. Et comment fonctionne le système économique de ce monde en faisant des magouilles ou en faisant un échange ou une transaction? Eh ben, je vais. Et d'ailleurs, qui c'est qui contrôle le système économique de ce monde? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est Mammon, exactement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, surtout dans sa tête. Il n'est pas libre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète les faveurs des débiteurs en leur remettant une partie de leur dette sur le dos du maître. D'accord? Le maître, en gros, il n'est pas censé le savoir, mais il le fait. Donc, pour avoir des chiffres, à l'un, il donne une remise de 50%, à l'autre, une remise de 20%. C'est pas mal, 50. Imaginez que vous me devez 50 euros. Je dis, écoute, tu as plus, Bruno, ouais, c'est 25, ça me suffit. Ça, c'est cool, ça. Et du coup, si un jour on a besoin de traiter ensemble, on dit, oh, je me souviens, il m'a fait une faveur, eh ben, je vais pouvoir lui faire une faveur en retour. C'est pas bête comme raisonnement, on est d'accord? Quelque part, est-ce qu'on ne l'aurait pas fait nous-mêmes aussi? On se dit, ben, si jamais j'ai besoin de traiter avec ces débiteurs, ben, ils vont me faire une faveur. Donc, il fait ça. Et ce qui est bizarre et déstabilisant dans ce verset, enfin, dans le verset 8 de cette parabole, c'est que le maître, il s'en aperçoit, et là, il dit, ça, c'est super ce que tu as fait. Je te félicite, mon gars. Bravo. Et il l'encourage. Waouh, mais c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, cette parabole, et ce moment-là, ça m'a vraiment, ça m'a un peu secoué. Donc, il le félicite. Mais c'est insensé, on est d'accord. Et alors, c'est là où, justement, on va comprendre, c'est que forcément, Jésus, est-ce que vous êtes d'accord que Jésus va pas nous encourager à faire des choses, entre guillemets, illégales ou des choses? Il y a forcément plus à savoir. Il y a forcément quelque chose que Jésus il est en train de dire là. Donc souvenez-vous du contexte. Il est en train de parler à ses disciples pour que les pharisiens ils tendent un peu l'oreille, ils disent ah on va voir. Donc pour comprendre la suite, il faut comprendre le contexte culturel israélite, ok, de l'époque. Alors on a vu que les pharisiens ils aimaient l'argent. C'est écrit dans la parole de Dieu parce qu'ils aimaient l'argent. Donc il y a quelque chose. Mammon, il est total au contrôle dans leur cœur. Ils aiment l'argent plus que le Dieu qu'ils sont censés représenter. Ou les lois divines au travers de Moïse, etc., qui sont censées représenter. Donc la loi de Moïse interdisait, c'est là qui est, c'est intéressant de le savoir, il y a des recherches qui ont été faites dans des manuels, dans des manuscrits, etc. La loi de Moïse interdisait de demander un intérêt sur les sommes qu'on prêtait aux autres juifs ou aux étrangers qui résidaient dans le pays. Donc ça, c'est une info qui a été creusée par un pasteur. Et il y avait donc des restrictions dans le domaine financier. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Les pharisiens, ils n'aiment pas ça. Nous, on aime l'argent, on va faire quelque chose. Donc le problème pour les pharisiens qui aimaient l'argent, c'est qu'ils avaient des limites. Donc, ils devaient trouver une solution, une parade pour franchir ces limites. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à inventer leur propre loi, à mettre en place leur propre loi. Et c'est ce qui est écrit, l'info qui a été donnée, c'est que l'immédiate nécessité, ça s'appelait comme ça, c'est une loi qui disait, quand quelqu'un emprunte de l'argent pour un besoin immédiat, par exemple, la paye de mes employés, c'est un besoin immédiat, je n'ai pas d'argent, ah mince, pour les payer, il faut que j'emprunte et je les paye. Pour des dépenses d'exploitation courante, peu importe, un besoin d'argent immédiat, on n'a pas le droit de demander des intérêts. Donc quand j'emprunte à quelqu'un, il n'a pas le droit de me dire, ah, quand je te rends, ah, c'est avec un peu plus, quand c'est pour payer tes employés. Mais, c'est là où c'est intéressant, si ce n'est pas pour un besoin, une nécessité immédiate, par exemple, du stock, on fait du stock. Tiens, dans la parole de Dieu, c'est écrit que ils devaient des tonneaux de vin, l'autre, ils devaient du blé, je crois. De l'huile, ok. Donc, en grande quantité, c'est pas forcément pour un mariage de 5000 personnes là-bas, c'était sans doute pour faire du stock. Donc, si on fait ça, on avait le droit de demander un intérêt. Et ça, c'est euh, les pharisiens qui ont déterminé cette loi. Pardon. Donc la loi de Moïse ne l'autorisait pas, mais les pharisiens eux-mêmes, ils ont dit, ça c'est une loi qu'on met en place, on est les boss, on est censé connaître la loi, ils ne peuvent pas le savoir les autres, c'est nous qui disons. Vous avez compris ? Ok. Donc certains gérants qui s'occupaient de stock, ils se sont dit, ok, on va demander des intérêts, on va se mettre de mèche avec les pharisiens, on leur donne une marge et on garde une marge pour nous. C'est honnête, eux ils gagnent, nous on gagne et on rack à fond ceux qui veulent acheter. Ça vous paraît un bon système ça? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont justement, quand quelqu'un voulait acheter du stock, ils ont fait cette magouille-là. Donc, quand le maître qui avait son gérant, il l'apprenait, attention, là, il y avait un problème. Il ne le savait pas. Le maître ne le savait pas. C'était tout sur le dos du maître. D'accord ? Donc, c'est là où on en revient à la parabole de Jésus. Pourquoi le maître a loué les mérites, etc., de ce gérant ? En fait, ce que le gérant a eu, c'est peur. Il a eu peur. Il s'est dit, oh, mon maître, maintenant, il le sait. Il l'a appris. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais appeler mes débiteurs et je vais leur rendre ces intérêts que j'ai demandés. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il a appelé les débiteurs et il leur a rendu, en fait, la marge. Admettons, Seb, il me doit 50 euros, mais moi, je lui dis, tu me dois 50 euros plus 50 euros, donc 100 euros. Et c'est l'histoire des 50%. Et là, je dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Seb, tu me dois plus que 50, c'était le deal, c'est ce que tu dois à mon maître, les autres 50, on n'en parle plus. Vous avez compris ? Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le maître, il a capté ça, il a fait, Seb, c'est super ce que tu as fait. Franchement, c'est là j'admire. J'admire cette situation. Ok, tu as fait des magouilles, mais franchement, j'admire. Et il a loué. Et c'est là où on comprend, en fait, que oui, il y avait quelque chose qui n'était pas normal, mais il est en train de louer quelque chose de bien. Donc, le maître a félicité le gérant d'avoir fait ce qui est juste en rendant le bien mal acquis. C'est simplement ça. L'autre, il lui devait, il remis 20% de sa dette, mais c'est parce qu'il avait simplement 20%, il a 20% d'intérêt, et lui, il ne l'a pas trop raqué encore. Ok ? L'autre, il s'est fait plus... il s'est fait pigeonner à fond, quoi. Hein, on va dire ça. Ok, donc dans l'auditoire où Jésus parlait, il y avait quoi ? Il y avait des gérants, il y avait des pharisiens, il y avait des maîtres, ils étaient là autour. Là, Jésus, il est en train de donner une parabole, il est en train de faire comprendre que, attention, maître, les maîtres, là, il y a des pharisiens qui sont censés me représenter la loi de mon père, et c'est en train de faire des magouilles. Et là, il commence à taper dans la fourmilière. Vous avez compris le truc ? Et il est en train de les mettre dans l'embarras à fond, là. Il est en train de le... Ok, vous vous moquiez de moi avant. Maintenant, on va voir. On va mettre en lumière ce que vous... Et donc, ils étaient censés être des exemples, ces pharisiens. Des fils de la lumière. Pourquoi je dis ça ? C'est écrit comme ça, des fils de la lumière, qui devaient protéger le peuple par une sainte interprétation des Écritures. Eux, ils devaient être... si on fait ce qu'ils disent, on sait que c'est la volonté de Dieu, on sait que c'est nickel, on ne va pas contredire, on sait que c'est Dieu, on suit eux, on suit Dieu, c'est nickel. Ça, c'était ce qui était censé être fait. Mais au lieu de ça, ils interprétaient la loi pour s'enrichir. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient ? En fait, ils étaient en train... au lieu d'être du côté des hommes et en train de... Pardon. Ils étaient censés être du côté des hommes pour libérer les gens de l'influence de Mammon. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à l'inverse ? Ils étaient du côté de Mammon et ils étaient en train d'enchaîner les hommes à l'esprit de Mammon. Et Jésus, justement, déclare alors la deuxième partie du verset 8 que les gens de ce monde, ici le gérant, agissent avec plus de prudence que les enfants. Les gens de ce monde sont plus avisés que les gens de la lumière. C'est qui les gens de la lumière ? C'est les pharisiens qui sont censés être une lumière, qui, justement, ne le sont pas. Et il dit, les gens de ce monde sont plus censés. Donc c'est le gérant, lui, qui n'est pas censé connaître la loi à ce moment-là. Il est plus avisé. Genre, il a une réaction qui est bien meilleure que celle des pharisiens. Et c'est pourquoi ce verset, il prend tout son sens, oui. Alors Jésus, il n'est pas en train de dire que les gens de ce monde, ils sont meilleurs. Il est justement en train de dire, les gens de ce monde, ils réagissent. À combien plus forte raison les gens de la lumière, ils devraient aussi envoyer du lourd, être pleinement inspiré par Dieu et faire des bonnes choses. Plus habile que les gens de ce monde. Ok ? Et avant, je disais justement que le gérant, qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris que la sentence, entre guillemets, que la décision du maître allait être prise, je vais être viré, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce que je vous avais dit avant ? Il a pris conscience et il a fait des plans avec sa tête. Il a commencé à se dire, ok, wow, attention, vous vous souvenez que j'ai dit ça ? Donc le gérant faisait des plans pour l'avenir. Et ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'on devrait aussi faire des plans pour l'avenir. Si le parallèle des gens de ce monde avec le gérant fait des plans, les gens de la lumière, ils devraient faire des plans, mais encore plus que les gens de ce monde. Des plans qui tiennent la route, des planifiés, mais pas seulement avec notre intelligence, avec l'action de Dieu, l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, avec ce que Dieu veut nous donner, on est d'accord ? Alors, le gérant, il manipulait les débiteurs pour attirer la faveur sur lui, et Jésus en parle juste après, donc dans le verset 9. Qu'est-ce qu'il dit sur ça ? Eh bien, moi, je vous conseille, faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde, afin qu'au moment où elles n'existeront plus pour vous, on vous reçoive dans les demeures éternelles. J'ai eu un moment où c'était... Ah, comment je fais pour comprendre ce truc-là ? Faites-vous des amis avec les richesses trompeuses de ce monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, faites-vous des amis en utilisant les richesses trompeuses, l'argent de ce monde, parce que quand il n'y aura plus d'argent, on vous recevra dans le ciel. Pourquoi ? Parce que votre père, il aura vu qu'avec l'argent, vous n'avez pas fait des magouilles, vous avez géré de façon honnête, et c'est ça que Jésus veut. Faites des actions honnêtes, faites du commerce honnête, soyez habiles et faites des choses qui plaisent à Dieu avec l'argent, les richesses trompeuses de ce monde. Et quand ça va disparaître, qu'est-ce qui va rester ? Il va rester que devant Dieu, vous aurez fait ce que lui, il attend d'un gérant fidèle. Et c'est pour ça que Jésus, il nous dit donc de ne pas manipuler l'argent avec les autres, de ne pas manipuler les autres avec de l'argent pour attirer leur faveur. Il ne veut pas qu'on manipule les autres avec de l'argent, qu'on utilise l'argent pour qu'on... Ah, allez, ça parle à tout le monde, ça. Et on le voit dans les films, etc. Mais c'est vrai. Et cette façon de faire, pourquoi il ne veut pas ? C'est parce qu'elle est inspirée par Mammon. C'est Mammon qui nous dit, ah, si tu lui donnes un petit billet ou si lui, tu lui... Eh ben, ça va te retomber un jour du bon côté, etc. Mais ça ne plaît pas à Dieu. C'est pour ça qu'il nous faut résister à l'esprit de Mammon et le mettre en lumière et puis le déceler. Et là, c'est encore une parabole. Il est en train de déceler et de mettre en lumière l'esprit de Mammon dans la vie des pharisiens. Là, les pharisiens, je suis sûr qu'ils commençaient à rire jaune, là, comme on dit. En conclusion, justement, Jésus, il dit en Luc 16, verset 10, du verset 10 au verset 13, que la fidélité dans un usage correct de l'argent est l'une des qualifications pour parvenir aux richesses véritables. Il le dit, vous vous souvenez, c'est le verset de la semaine dernière. « Si vous n'avez pas été fidèle dans votre façon de gérer les richesses trompeuses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ?» Moi, j'aime bien le dire à l'inverse. Si je suis un bon gérant dans les richesses trompeuses de ce monde, alors Dieu va pouvoir me confier les vraies richesses. Et ça, moi, je veux y travailler. Et c'est pour ça que vous êtes à la bonne place. C'est parce que, et je vous encourage, ne le faites pas parce qu'on va prendre une super étude biblique. C'est parce que si on devient des gérants fidèles, Dieu va pouvoir nous confier les vraies richesses. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Je suis sûr qu'il ne tient pas en place dans le ciel tellement il a envie qu'on atteigne ce qu'il a prévu pour nous. Imaginez, prévu tellement de choses, et nous, on s'en passe. Non. Là, j'avais mis dans mes notes qu'il était 19h30, il est 19h36, j'ai été efficace, parce qu'on avait un petit peu de retard. Génial. On va commencer la leçon du jour. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous a donné des... Moi, j'ai, c'est pas, ça vient pas de moi. J'ai lu ça dans un livre et j'ai trouvé ça vraiment... Wow. J'ai bien aimé ces petites infos qu'on ne pouvait pas avoir comme ça. Et je trouvais que c'était logique, c'était sensé. Et que je pense que... Ouais. Je pense que ça parle bien. Cool. Si ça vous parle, c'est génial. Je me réjouissais trop de l'annoncer parce que vendredi, on était un peu dans la confusion, on avait besoin d'avoir des éclaircissements encore. Alors, aujourd'hui, on va parler de la part de Dieu. Alors, je vais juste prendre un petit peu quelque chose à boire. Sur le net, ça va toujours, les amis? Vous nous voyez ou vous nous entendez seulement? On entend, ok. Super. Vous avez des questions? Est-ce que ça va pour vous? Ok. Alors, on va parler de la part de Dieu. Et Dieu a lui-même instauré une façon de procéder, mais il a toujours un ordre. Et dans sa façon de créer les choses, il le fait toujours avec une sagesse, avec un ordre bien défini. Et s'il a promis d'accomplir des choses et de faire des choses, il nous a donné des promesses, il va les faire. Mais il ne veut pas qu'on se, entre guillemets, qu'on se mêle de sa part, de ce que lui a à gérer. Et, parce qu'il y a une part qui nous revient à nous, une responsabilité qui nous revient à nous, et il y a une responsabilité qui est entre ses mains et ses mains seules. Et si on commence à essayer de prendre la responsabilité qui est à Dieu, finalement, eh ben, on va être frustré parce qu'on ne va pas y arriver. Et on va voir ça ensemble. Alors, le travail personnel du jour 1, donc, ça commençait justement par les commentaires. Vous aviez tous bien compris que quand on commence une nouvelle leçon, on lit les commentaires de la leçon précédente. Okay? Donc c'était les commentaires de la leçon 1. On va passer assez rapidement, à moins que quelqu'un soit brûlant pour donner une explication, mais j'aimerais bien qu'on passe assez rapidement sur cette question. Donc selon les indications de ce premier commentaire, pour débuter, quelles informations vous a particulièrement intéressé? Les réflexions personnelles et le fait que la Bible insiste et parle de l'argent beaucoup. Qu'est-ce qui vous a est-ce qu'on peut avoir deux, trois réponses, une ou deux réponses peut-être, quelqu'un qui est inspiré pour répondre? Non, personne qui veut se lancer. Il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Si Josué, Clémence, Gary, sur le net, si vous avez besoin de, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas à intervenir. Alors, prends juste le micro, comme ça on entend. Ouais, Bruno.
Ce qui m'a choqué, c'est que ça parlait de plus de 2350 fois, quoi.
Ouais.
Enfin, voilà. C'est ça.
2350 versets qui parlent de. Alors, c'est pas seulement de l'argent. C'est des biens, des richesses, c'est l'économie, c'est vraiment tout ce domaine en fait. Mais oui, il y a beaucoup sur l'argent, effectivement. Très bien. Quelqu'un d'autre voudrait... Ouais, Jean.
Moi, j'avais écrit, en fait, ce que je voulais dire, c'est que souvent depuis ma jeunesse, j'avais entendu des enseignements, des réflexions sur Matthieu 25, 21 et Matthieu 6, 24, sur le rôle de l'argent et tout ça, sur ne pas servir de maître, Dieu et Mammon. Mais j'ai jamais vraiment su de manière concrète comment le mettre en pratique. Peut-être c'était un certain temps, pendant plusieurs mois, voilà, parce que j'étais dans l'enseignement. Et après, bah, il y a de nouveau le travail qui reprend le dessus, la routine, le quotidien. Et par exemple, je suis régulier dans la dîme quelques temps, et puis après, ça passe à la trappe. Donc après, il faut de nouveau recomprendre pourquoi c'est important, pourquoi on le fait. Et quand c'est pas clairement présent sur le long terme, ben, on le fait pas dans la durée. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tellement foncé sur l'occasion de suivre ce séminaire pour vraiment que ça reste le reste de ma vie, en fait.
Ouais, super. Super. Je suis très content d'avoir des retours de vous. J'en ai déjà eu quelques-uns et que ça, si ça ne change pas nos vies, ça ne sert à rien de faire cette formation. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose où Dieu est fondé. Il nous appelle à vivre plus. Et je crois qu'on va découvrir vraiment plein de choses ensemble. Et je crois que Oui, j'aime beaucoup vos retours sur les expériences que vous vivez, les choses qui changent dans votre vie. Super. N'hésitez pas à prendre la parole, justement, dans ces moments où vous avez des réflexions, où vous avez des... Il n'y a pas de fausses réponses. Et ça peut encourager quelqu'un qui vit exactement la même chose que vous à côté, et puis ça peut débloquer. J'en ai vécu plusieurs des comme ça pendant la formation avec Mathilde. Et vraiment, c'est des témoignages, si vous avez des témoignages, on va voir. Ok, je vous propose de passer au deuxième jour. Donc, le deuxième jour, on a le verset, on a trois versets pour commencer. Alors, je vais les prendre. Deutéronome 10, verset 14. Dès que vous êtes ok. « Au Seigneur, votre Dieu, appartiennent le ciel immense, la terre et tout ce qu'elle abrite. » Le deuxième verset, c'est Psaume 24, au verset 1. C'est au Seigneur qu'appartient le monde avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent. Et 1 Corinthiens 10, verset 26, « Car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. » La question justement, quelles sont les implications de cet éclairage concernant la propriété de nos biens en général? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Vas-y Ézéchiel.
Alors moi j'ai repris les propos de Kurt à l'introduction, qui disait comme quoi on était des gestionnaires avant tout quoi, des biens du Seigneur. Et j'ai rajouté aussi qu'il nous mettait lui-même un patrimoine à disposition.
Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre?
Moi j'ai dit que nos biens appartiennent à l'Éternel. C'est le résumé de ces trois versets.
Ok. Oui, très bien. Alors, justement, je pense qu'on ne peut pas être plus transparent au niveau de ces versets. Le verset qu'on a cité au tout début, en commençant la leçon, le verset du jour, on va dire, parle vraiment de ça. C'est « Seigneur est propriétaire de tout ». Et finalement, on a besoin de prendre vraiment conscience, en fait, qu'on n'est pas propriétaire. On ne peut pas dire « ça m'appartient ». C'est le Seigneur... dans sa grâce, qui nous a donné des choses à gérer. Et je crois que de prendre simplement juste conscience de ça, quand vous voyez tout ce que vous, entre guillemets, possédez, vous dites, waouh, mais c'est génial. On vit sur une terre qui appartient à Dieu, et ça, on ne peut pas lui enlever, et personne ne pourra jamais lui enlever. Certains essayent. Oui, Andrea ? Alors, prends juste le micro.
Nous aussi, même si on n'a pas, par exemple, avant que je donne ma vie au Seigneur, je lui appartenais. Je suis sa création. Alors, ouais. Je ne peux pas nier son droit sur moi.
Exactement.
Bon, ça, je l'ai compris après que j'ai connu Christ. Ouais. Mais même ceux qui ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas nier le droit du Seigneur sur leur vie.
Oui. Alors, je mettrai une simple... pas une limite, mais Dieu a le droit sur notre vie jusqu'à ce que la liberté de le choisir ça, commence pour nous. Mais tout le reste, ça lui appartient exactement.
On lui appartient, exactement. Il nous a créés.
Exactement.
Après, on lui appartient, il nous a sauvés. De toute façon, on lui appartient.
micro.
On est tous des chrétiens. On va dire ça au monde.
Moi, j'ai dit ça à mon frère. Pourquoi ne pas dire?
Il faut mais oui, dire. Mais va dire par exemple aux collègues, enfin je ne sais pas, moi oui, mes collègues, je si dis. Je leur tiens ce discours, ils vont dire mais toi t'es folle. Hein?
Oui, d'accord. Je le dis et ils m'ont répondu ouais. Comme toi tu dis. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas dire.
On a compris le message d'Andrea, effectivement. Mais on revient effectivement à ce que Dieu est propriétaire de tout. Et c'est là où c'est important de vraiment prendre conscience de ça. Et parfois, on dit, oui, mais oui, Seigneur, tout appartient, mais oui, aucun problème, c'est facile. Oui, mais quand il reprend ce qu'il nous a donné un jour, il a le droit. Mais il ne reprend jamais, voilà, comme l'exemple de Job. Alors, j'aimerais juste, pour illustrer en fait cette pensée, ce principe que Dieu est vraiment propriétaire. J'ai illustré ça sous une image comme ça. Imagine Bruno, tu es devant, tu me donnes les clés de ta voiture, et puis moi, tu pars en vacances, et finalement tu prends l'avion, donc tu n'as pas besoin de ta voiture. Et tu me dis, Luc, pendant 2 semaines, cette voiture, j'aimerais te la confier, prends-en bien soin, parce que à mon retour, j'aimerais la récupérer picobello, poncé, enfin propre, quoi. Mais voilà, tu pars en vacances. Et moi, pendant ces deux semaines, j'ai un ami qui vient et qui dit « Oh, t'aurais pas une voiture à me prêter, j'ai une course à faire et tout ça. » J'ai justement là le dernier coupé là, de chez Audi. Regarde ça, t'as vu les jantes et tout. C'est à toi ? Bah oui, c'est ma voiture. Tu te l'as acheté quand ? Bah, il n'y a pas longtemps, mais elle est à moi. Ah bon ? Ah ok, bah, tu peux me la prêter. Je te la prête sans problème, mais tu fais gaffe. Ok. Est-ce qu'on n'est pas comme ça, justement ? Alors, c'était une petite histoire. Est-ce qu'on n'est pas comme ça avec ce que Dieu nous confie, finalement ? Là, on rigole sur cet exemple, mais on le fait avec ce que Dieu nous confie. Non ? Enfin, moi, c'était un exemple qui m'avait parlé. On me l'a fait à moi aussi. On m'avait dit, voilà, vraiment exactement avec la voiture. Et ça m'avait parlé. Je me suis dit, mais c'est... Wow, attends, il faut que je m'arrête là. Il y a un constat à faire. Donc, de quel droit je pourrais dire ça ? Et on le fait avec notre argent. C'est des choses qui piquent, mais on a besoin de l'entendre. On le fait avec notre salaire, avec notre travail. On le fait avec ce que Dieu met dans nos vies. Est-ce que vous croyez que votre salaire, que votre travail, c'est vous qui l'avez trouvé ? Vous avez le droit de dire oui, un peu. Un petit peu. Oui, vous avez fait des démarches, vous êtes mis en... Mais Dieu ouvre des portes, etc. Et justement, il nous bénit avec un salaire. On va le voir un peu plus loin. Et on va revenir sur ça. C'est simplement une question d'attitude, et je crois que Dieu veut qu'on travaille notre attitude juste vis-à-vis de ça. Et lui, il le sait qu'il est propriétaire, il doit rigoler quand nous on gère d'une certaine façon, on s'approprie d'une certaine façon, c'est bien. Il va dire, oh, il n'a pas encore compris, mais je vais l'aider à comprendre un jour. Mais c'est une question d'attitude, c'est simplement, parfois c'est difficile de le comprendre, mais on peut juste dire, ok Seigneur, moi j'aimerais vraiment mieux comprendre maintenant et aide-moi pour ça. Et j'aime bien cette phrase, Dieu n'a jamais transmis l'acte de propriété. Quand vous achetez une maison, vous avez un acte de propriété, et c'est moi, c'est pas la tienne, j'ai la preuve, c'est écrit. Est-ce que vous avez vu quelque part un écrit où Dieu a dit, cette terre, famille, ce qui est le plus riche sur cette terre et tout, ok, je vous la donne maintenant. Et, alors il y en a des exemples, mais... Mais il n'a jamais transmis l'acte de propriété de sa création aux hommes. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Exactement, il a donné la gérance. On n'est pas appelé à être des propriétaires. Si vous essayez d'être des propriétaires, si vous, toute votre vie, vous basez votre vie, tout ce que vous faites pour être propriétaire, vous allez perdre du temps. Vous allez vous fatiguer. Mais Dieu, il a dit, oh, j'ai tout. Maintenant, si tu montres tes capacités à bien gérer, moi, je vais te confier des choses. Et il est très inégal. Il n'est pas du tout équitable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. On le verra plus loin. Lévitique 25, est-ce que c'est OK pour vous ? Ça vous parle ? Lévitique 25, verset 23, le verset suivant, donc, « Une terre ne pourra jamais être vendue de manière définitive. » Car la terre m'appartient à moi, le Seigneur, et vous serez comme des étrangers ou des autres résidant dans mon pays. Oh, j'aime bien ça, ça illustre ce que je disais avant. Psaume 50, versets 10 à 12. Car j'ai à moi toutes les bêtes des forêts et des animaux sur des milliers de montagnes. Je connais tous les oiseaux des hauteurs et le gibier est à ma disposition. Si j'avais faim, je n'aurais pas besoin de te le dire. Puisque le monde entier est à moi, avec tout ce qu'il contient. Et le dernier verset, Agé 2, verset 8, « En effet, l'or et l'argent du monde entier m'appartiennent. » J'aime trop ces versets, on ne peut pas contredire, ils sont tout à fait clairs. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire, dans Lévitique 25, 23, c'est quoi les biens que Dieu décrit qu'il a ? Facile. On est tous unanimes. La terre, très bien. Dans Psaume 50, les 10 à 12, qu'est-ce qu'il a et qui dit qu'il a ?
Les animaux, les bêtes, les oiseaux.
Exactement, tous les animaux. Ok. et en âgé de 8, qu'est-ce qui est de la propriété de l'argent et l'or ? Purée, vous êtes fort. Génial. Ok. La dernière partie du travail de ce jour, j'aimerais la court-circuiter entre guillemets. On va y revenir dans la session prochaine. Ça fait sens dans la session prochaine. Mais c'est ce que je disais aussi avant. Ça rejoint je vous invite à vraiment revoir votre attitude, mon attitude face à ce qu'on a entendu. Oui, Dieu est propriétaire de tout sur la terre, de la terre, et pas seulement du ciel. Alors le ciel, ça va très 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 loin. Il y en a encore qui essayent d'aller, ils sont encore en route pour découvrir la limite, mais on n'est pas prêt de les revoir. Donc oui, ça va très loin. Ok. Oui, Raymond.
Juste pour ajouter dans Lévitique.
Oui.
Dans Lévitique, Dieu dit qu'il est propriétaire de la terre. C'est pour ça qu'au jubilé, il redonnait les terres à ceux qui les avaient vendues parce qu'ils avaient plus d'argent. Donc on leur redonnait les terres. Ouais.
Ah, excellent. Vous avez tous entendu ?
On n'a pas bien entendu.
Ah. Alors, est-ce que... Vas-y, non, c'est toi Raymond, je pense qu'ils n'ont pas entendu. C'est l'explication de Raymond que vous n'avez pas entendu ?
Oui. Okay. Je disais que Dieu dit qu'il est propriétaire de la terre, et quand les Hébreux, donc, ils vendaient leur terre parce qu'ils avaient besoin d'argent, le jour du jubilé, enfin l'année du jubilé, la terre, elle leur revenait. C'est-à-dire qu'ils gardaient toujours leur héritage. Certainement encore aujourd'hui, hein.
Très bien, super. Vous avez entendu sur Internet ?
Je disais quand même aujourd'hui en Israël, les maisons et les terres se vendent par rapport à l'année du jubilé. Dans quelle année nous sommes et combien d'années encore jusqu'à l'année du jubilé ?
Ok. Donc, en résumé de cette partie qu'on vient de voir ensemble, Dieu est propriétaire. La part de Dieu, chapitre qu'on est en train de voir, Dieu est propriétaire. Si on essaie d'aller sur ces plates-bandes, attention, on va pas se faire mal, on va juste perdre du temps. Enfin, c'est mon avis. Le troisième jour, verset 1 Chronique 29, versets 11 à 12, n'est-il pas connu ? C'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Si quelqu'un veut ça, c'est pas à vous. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi. Si vous voulez être riche, il faut s'adresser à lui. Si vous voulez la gloire, il faut s'adresser à lui. Ça vient de lui. S'ils disent « viennent de toi », ça veut dire qu'il y a possibilité de recevoir quelque chose. Qui domine sur toute chose ? Tu possèdes la force et la puissance, tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. D'accord ? Psaume 135, verset 6, on enchaîne. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans les profondeurs. C'est vrai que sur la terre, il n'y a qu'un seul endroit qui est vraiment peu connu, c'est les profondeurs des mers. Beaucoup d'endroits sur la terre qui sont connus. Mais les profondeurs des mers, là, c'est encore chaud. On n'a pas réussi à atteindre... Voilà, c'était une petite info scientifique. Il faut être complet. Sachant que Dieu est maître de toutes les circonstances, que nous apprennent ces deux passages sur notre façon de penser et d'agir. Quelqu'un peut répondre ? Alors, j'aimerais bien privilégier la parole à ceux qui ne parlent pas. Tiens, Léo, est-ce que tu aurais une réponse ? Tu peux me dire non ? Ok. Quelqu'un aurait une réponse, et au dernier moment, ce sera Ézéchiel, parce qu'il est fou. Il est bouillant. Quelqu'un aurait une réponse ? Ce serait bien que Francine, s'il te plaît.
Moi, je pense qu'en fait, compte tenu de ce que Dieu possède tout et que finalement, on lui doit la gloire et tout ce qui va avec, Et ben, c'est un peu comme si ça nous disait que dans notre manière de penser et d'agir, il faut qu'on soit dans la reconnaissance, dans la louange et dans l'adoration, puisqu'il est la source de tout. C'est tout ce qu'il y a à faire, en fait.
Super. Super. Très bien. Valentin.
Donc moi, j'ai mis la même chose, presque la même chose que Francine. J'ai juste rajouté une condition au début, c'est tu l'avais bien aussi mentionné, Luc, avant, c'est que je sais plus, tu avais parlé de la liberté, enfin, qu'on appartient à Dieu jusqu'au moment, enfin, jusqu'au choix. Et donc c'est ce que j'ai mis. Tout d'abord, Dieu nous laisse le choix de le servir ou non. Et si on décide de le servir, alors c'est dans cette manière-là qu'on doit le faire.
Très bien, donc dans la louange, l'adoration et... Ok. Ghislaine ?
Ouais, sachant que Dieu est maître de toutes les circonstances, ben moi j'ai remarqué que donc avant de faire des plans, on devrait plutôt lui demander son avis, ce qu'il en pense et si c'est là qu'il nous veut quoi. Donc on devrait dire en résumé si Dieu le veut quoi. Hein? Voilà. On devrait le consulter.
Super. C'est bien, c'est pratique en fait. C'est pratique. Ok, Aristide ?
Oui, moi j'ai mis « je dois penser et agir autrement », parce que Dieu règne avec autorité dans les cieux, sur la terre aussi, et que Dieu domine en puissance sur toutes choses pour agrandir et fortifier, et tout ça, il fait ça pour moi. Quoi.
Ouais, nickel. Et une dernière pour Ézéchiel, quand même lui donner la parole.
Ouais, j'en prends à peu près tout. Seul Dieu agit dans tous les domaines, en particulier le domaine financier. Et il est important de lui laisser la première place pour qu'il puisse agir. Et à la fin, mais ils n'agissent pas par nous-mêmes. Et si on fait ça, logiquement, c'est synonyme de première place pour Dieu, alors ça revient au même.
Yes, très bien. Alors justement, ça rejoint. Enfin, toutes les réponses sont bonnes, je crois. Et puis. Mais. J'aimerais compléter simplement en dire que Dieu, on l'a dit, il est au contrôle, vu qu'il a, c'est lui le propriétaire, en principe un propriétaire, il a la main mise sur sa propriété. Il est au contrôle, et la chose en fait qui est favorable pour nous, c'est qu'alors, s'il est au contrôle, et si on croit vraiment qu'il est au contrôle, alors on n'a plus besoin de s'inquiéter. Et je crois que la notion d'inquiétude est... On a besoin d'en parler, on a besoin simplement de se positionner par rapport à ça, dire ouais, oui, c'est vrai, moi je vous le dis, j'ai parfois eu des moments où je me suis inquiété parce que d'un coup, le sol se dérobait sous mes pieds, si on peut dire. Et on a besoin de juste dire, ok, t'es au contrôle Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter. Et on pourrait creuser dans la parole de Dieu des versets où il dit vraiment ne crains pas, ne crains rien, pas juste un petit peu, rien, ou ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien, ok ? Alors, avec Dieu, justement, vu qu'il est au contrôle, vu qu'il est propriétaire, je crois qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Mais j'aimerais vous emmener dans un petit témoignage, parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut sans aucune limite. Et j'aimerais vous donner un témoignage. C'était un matin, je me suis réveillé un matin, et puis j'ai choisi de passer un temps avec Dieu. Je précise, j'ai choisi parce qu'on peut se faire voler notre temps. On a besoin de dire, je prends ce temps pour toi, Seigneur. Et je vous encourage à choisir des moments avec Dieu. Et c'était un matin, et je n'avais jamais lu ce passage dans la Bible. En tout cas, je ne l'avais jamais, j'avais jamais fait tilt. C'est Matthieu 17, versets 24 à 27. On ne va pas le relire, mais je vais tout vous expliquer. Matthieu 17, 24, 27. Voilà le contexte. Jésus est avec ses disciples en entrant dans une ville qui s'appelle Capernaum. Et une fois qu'ils sont rentrés dans cette ville, il y a des agents, on va dire des personnes qui étaient responsables de prendre, de collecter l'impôt pour le temple. Il y avait un temple à Capernaum. Et ils viennent voir Pierre, tout de suite ils arrivent et ils viennent voir Pierre pour lui demander « Eh, ton maître... ne paye-t-il pas l'impôt du temple ?» Et Pierre, c'est comme s'il voulait accuser Jésus. Il y a quelque chose qui pique un petit peu dans leurs propos. Mais Pierre, il répond, « Mais si, il le paye !» Il le paye. Voilà, ça c'est le début du chapitre, du verset, pardon. Et Pierre, il n'a même pas le temps de dire « Oh Jésus, aujourd'hui me dire rien. » Jésus, direct, il enchaîne. Il va lui poser une question, il le prend un petit peu à part, il prend les devants. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « Oh, Jésus, s'il fait ça, c'est qu'il a envie de montrer quelque chose à Pierre. » Il a dit « Ok, tu as vécu ça. Maintenant, je vais te faire une démonstration de quelque chose. J'avais envie de savoir plus. » Et alors, je vous dis mon analyse après avoir lu le verset et puis avoir rien compris au début. Voilà. Donc, paraphrasé, Simon, j'aimerais connaître ton avis. Qui, selon toi, doit payer les impôts et les taxes au roi, au prince, au dirigeant, au gouverneur, vous mettez le mot que vous voulez, de ce monde? Qui, selon toi, doit payer ça? C'est plutôt les étrangers ou c'est plutôt les citoyens de leur pays? Alors, Pierre, il répond les étrangers. Logique, non? Ok, c'est logique. Et ce qui est cool dans ce verset-là, c'est que Jésus il complète, il ne dit pas « Ah, t'es sûr, non ?» Il complète, il dit « Par conséquent, donc comme pour dire oui, c'est ça, donc les citoyens de leur pays n'ont pas à payer. » Si c'est les étrangers, les citoyens n'ont pas à payer. Ça veut dire que les collecteurs d'impôts, de l'impôt du temple, là, les agents qui sont venus voir Pierre, ils considéraient Jésus et ses disciples comme des étrangers. On est d'accord, c'est une conséquence. Enfin, qui devait donc payer l'impôt. Mais Jésus, il est en train de dire à ses disciples qui ne sont pas des étrangers. Ça, j'ai trop aimé en creusant un peu plus ce verset. Il est en train de leur dire, donc, vous n'êtes pas des étrangers. Et vous êtes qui? Vous êtes les rois, les princes, les gouverneurs de ce monde. Mais il n'en reste pas là. Il dit, ce que j'aime par-dessus tout, en fait, dans cette histoire, c'est Jésus qui dit au verset 27, s'il dit « Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. » Donc, « Cependant », c'est bien que, vu qu'il y a ça, ok, bon, vu qu'il y a ça, cependant, on va pas, en gros, comme s'il disait, on va pas leur dire qu'on est les boss, ok, les gars, on reste calme, revenez par ici. Ils vont mal le prendre, je vous le dis, hein. On va pas leur dire ça. On va payer quand même. Et là, il va montrer à Pierre et à tous les disciples quelles sont les réalités que peuvent vivre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont appelés à être des gérants de ce monde. C'est là où on en revient, la démonstration de qu'est-ce que Jésus il avait envie de montrer. Il avait dit, eh Pierre, viens, je ne parle pas, je vais te poser une question. C'est eux ou c'est nous ou c'est les étrangers qui doivent payer? Je te donne la parole tout à l'heure. Et il est là et il va dire à Pierre, la chose suivante, vous avez déjà sans doute entendu cette histoire. Va au lac, jette une ligne à l'eau. Toi qui es pêcheur, Pierre c'était qui? C'était un pêcheur, maîtrise. Sors le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. Alors là, je me suis un peu éclaté. Je me suis dit, Pierre, il va prendre sa canne à pêche, hop. Et en chemin, il se dit, eh oh, c'est qui le pêcheur? C'est moi. J'étais entrepreneur, j'étais pêcheur. C'est moi qui gère, ok? Alors, je sais que les huîtres, ils produisent de belles perles. Alors, j'ai jamais vu un poisson avec de l'argent dans la bouche. Hein. Alors ça, il ne faut pas me la faire et tout. Et j'en ai pêché pas mal, d'ailleurs. Et l'argent, il ne tombe pas du ciel. Hein, je le sais, ça. Mais pourtant, Pierre, il avait déjà vécu des choses avec Jésus, parce que ça vient après la parabole où il multiplie les pains, etc., les poissons. Mais l'argent, il n'a jamais vu. Il a vu le pain, il a vu le vin, mais pas l'argent. Mais si, moi je crois qu'il tombe du ciel, entre guillemets, j'aime en quelque sorte le dire. Et Jésus, il va leur montrer que Dieu, il connaît leurs besoins, il connaît les besoins, et il va répondre, il va pourvoir surnaturellement. Et plus haut, on a vu que tous les animaux de la terre appartiennent à Dieu. On est d'accord? On vient de le voir. C'était les versets. On a vu que l'argent et l'or du monde entier appartiennent à G2-8, à Dieu. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Ce poisson, il m'appartient, j'en fais ce que j'en veux, l'or m'appartient, maintenant je fais les deux ensemble, va pêcher ce poisson et tu vas l'avoir. Il gère. Est-ce que vous croyez qu'on a un Dieu qui est pas... Il est en train, Jésus est en train de montrer, ok, ils nous prennent pour des étrangers là, eux là, ils nous prennent pour des étrangers, il n'y a pas de problème, moi je vais vous montrer qui c'est que vous êtes, qui c'est que vous êtes et à quoi vous pouvez prétendre. Et c'est ça, j'ai trop aimé cette... Et je crois que ce soir, j'avais envie de donner cette illustration, parce que je crois que Dieu veut qu'on monte le niveau de notre foi. Il veut nous montrer, il l'a fait une fois, il peut encore le faire. Il veut nous montrer, c'est sa parole, il veut nous montrer que Pierre n'avait jamais expérimenté une telle situation. On dit, ok, maintenant on va commencer, il faut une première fois. On va expérimenter quelque chose de ouf, tu ne peux même pas l'imaginer. Ok, on ne nous dit pas comment il l'a fait, s'il l'a ramené, etc. On passe à un autre verset et puis c'est une autre histoire. Donc je crois, et je crois vu que c'est la parole de Dieu, que ça s'est produit. Et Pierre, il a dit, waouh, poisson, si ça se trouve, c'était un méga gros poisson. Alors on pourra voir ça en détail, mais les pièces d'argent avaient une certaine taille, un certain poids, etc. Mais en tout cas, la valeur de cette pièce payait l'impôt. Est-ce que vous croyez que Jésus et tous ses disciples n'avaient pas une bourse? Qui c'est qui gérait la bourse? C'est Judas, on est d'accord. Est-ce que vous croyez que quand Jésus est rentré dans Capernaum avec ses disciples, il était fauché? Moi, alors j'ai réfléchi, c'est pas écrit, mais moi je crois pas. Et pourtant, il a fait un miracle financier. Ça veut dire que Dieu, il peut même faire si tu as de l'argent. Enfin, ça c'est mon interprétation. Et je crois que c'est vrai, parce que Dieu est grâce. Parce que Dieu, et j'ai entendu des témoignages, vous savez, où Dieu faisait des choses dans la vie des personnes riches. Oh, mais il le fait dans les... Mais ils n'ont pas besoin. Mais, c'est son enfant, il fait ce qu'il veut. Oh, mon enfant, je l'aime. Et en plus, il me respecte. Il fait des choses bien pour moi. Oh, t'es riche. Pas grave, encore. Voilà. J'aime trop. Donc Dieu va faire des choses extraordinaires si on s'attend à lui, il l'a fait une fois, je le redis, et il peut encore le faire. Souvent, je prie, Seigneur, fais-le encore. Et je pense à la première fois que j'ai entendu le témoignage d'une expérience que j'ai envie de vivre. Waouh, t'as allongé les jambes de quelqu'un, fais-le encore, Seigneur. T'as guéri un malade du cancer, un ami, fais-le encore pour lui. T'as sorti du pétrin une personne qui était un problème, fais-le encore. Et souvent, je prie comme ça, fais-le encore, Seigneur, fais-le encore. Pas pour imposer à Dieu, pour dire, oh Seigneur, je sais que tu l'as déjà fait, ma foi maintenant, elle s'appuie sur ce témoignage, et par la foi, on va remporter des victoires. Alors oui, Seigneur, fais-le encore, montre-nous ta puissance, et je déclare sur nous, sur ce groupe, sur nos vies, et tous ceux qui sont là, sur les amis qui nous suivent sur le net, je déclare que oui, on veut. Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire « Oui, Seigneur, je veux vivre ta puissance, je veux ta faveur, je vis des expériences. Wow. » Et tes disciples, ils ont pu vivre. Montre-moi, dis-moi comment je peux faire, etc. C'est Jésus qui a dit à Pierre comment il pouvait faire. Moi, j'ai envie que Jésus me dise au travers du Saint-Esprit, ça, c'est une technique. Et Courte, il vous en parlerait. J'aime bien parler des témoignages de Courte parce qu'il a un sacré bagage. Et Dieu lui a déjà révélé dans un songe, fais comme ça, tu vas voir le succès. Et je crois qu'on a besoin de venir dire, Seigneur, ah Seigneur, j'ai envie. Et rien que ça, rien que dire oui, vous avez besoin de dire un mot, oui, Saint-Esprit, oui, 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 viens, oui, oui, oui. Et là, il va dire, ouh, candidat potentiel, lui, il a envie, on va travailler peut-être quelques petits trucs pour pas que ça parte en latte. Ou alors, lui, il est prêt, il est déjà dit, ouh, là, je vais envoyer le paquet. Et je crois qu'en faisant... Et je répète, cette formation, on apprend, on est confronté, on est frotté à la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique dans nos vies, ça ne sert à rien. Mais je crois qu'elle sert à quelque chose et je veux la vivre. Et je veux être un des exemples. Je dis souvent, Seigneur, sers-toi de ma vie pour pouvoir montrer que c'est vrai. Mais si on est tous pareils, eh ben, Dieu va se servir de nous. Et, Et justement, j'ai vraiment envie que Dieu envoie un esprit, l'Esprit Saint, mais une foi. On a le droit de le demander à Dieu dans la parole, en Luc 17, 5, les apôtres ils vont voir Jésus, ils disent « Jésus, ou Seigneur, augmente le niveau de notre foi, augmente-le, on a besoin, on n'y arrive pas, mais augmente. » On a besoin. Et on va vivre des expériences parce que la foi vient de la parole de Dieu et Dieu agit avec notre foi. Parfois, je me répète un petit peu trop sur ça, mais je pense qu'on n'a pas assez entendu. Elisabeth, tu as une question micro, s'il vous plaît.
Je vais peut-être soulever encore un truc qui me paraît un peu bizarre. Moi, quand Jésus pose la question « De qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts, de leurs fils ou des étrangers ?» Si on réfléchit, nous, on paye des impôts dans notre pays, aux hommes politiques, enfin voilà. Ce n'est pas les étrangers qui payent des impôts. Donc moi, la réponse ne me semble pas logique. Ah. Puisque là, il répond des étrangers.
J'ai la réponse, mais je n'ai vraiment pas envie de la donner ce soir. Non, je rigole. Mais est-ce que quelqu'un est inspiré pour répondre ? Est-ce que... Perso, je n'ai pas la réponse.
Enfin, je sais pas, moi, ça...
Mais je propose de noter ta question et puis de creuser un peu plus tard. Ça marche. Et si je trouve, ou si quelqu'un a envie, qu'on en soit tous au bénéfice. Tu voudrais rajouter quelque chose, Francine ? Si on peut lui passer le micro.
Moi aussi, j'ai trouvé ça bizarre d'entrée de jeu, mais peut-être parce que notre référence et notre culture est ce qu'on a l'habitude de voir en fait et d'entendre. Mais peut-être qu'à leur époque, je ne sais pas, par exemple à Rome, avec toutes les colonies, et c'est peut-être les étrangers qui subissaient en fait le poids de l'impôt et pas les citoyens. C'est un autre contexte. Je ne sais pas si c'est ça, mais...
Il doit y avoir un contexte historique, probablement.
Il y aurait une autre explication, c'est dans le temple. Et le temple, c'est la maison de Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi Jésus paierait pour rentrer dans sa maison. C'était ça, quoi.
Ouais, j'aime bien aussi, ouais. J'aime bien.
C'est... Ben, peut-être. Enfin, c'est une explication.
Ouais. Simple et clair. Ouais. Ok. Ça vous a béni, cette histoire Yes, ça vous parle. On va poursuivre. Proverbe 21, verset 1. Donc là, le verset suivant. L'esprit du roi est comme un ruisseau que la main du Seigneur dirige là où il veut. Ésaïe 40, versets 21 à 24, un petit peu long, mais très bon. Ne le savez-vous pas ? Ne l'avez-vous pas appris ? Ne vous l'a-t-on pas annoncé depuis le début ? N'avez-vous pas compris la fondation du monde ? Le Seigneur a son trône au-dessus de l'horizon, si haut qu'il voit les humains de la taille des fourmis. Il a étendu le ciel comme une grande toile, il a déployé comme une tente pour y faire sa demeure, il a réduit à rien les dirigeants de ce monde, à rien du tout les détenteurs du pouvoir. À peine sont-ils en place, à peine sont-ils installés, à peine ont-ils pris racine, que le souffle du Seigneur les balaie, les dessèche, et les voilà emportés comme des brins de paille dans un tourbillon. Puis le dernier verset, acte 17, verset 26. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. Il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qu'ils devaient habiter. Alors, la question qui a été posée dans le livre, comment Dieu règne-t-il dans la vie des êtres humains ? Est-ce que quelqu'un, juste pour Proverbe 21, verset 1, a une réponse ? Seb, et je passerai le micro à...
Oui, en fait, Dieu dirige, conduit l'homme là où il veut. En fait, c'est lui qui nous dirige, qui nous place là où il veut. En fait. C'est comme okay. ça que j'ai...
Ok.
Moi, je pense qu'on n'est pas télécommandé.
Ouais. Ouais, prenez vraiment le micro, comme ça on peut entendre.
Je crois quand même que Dieu n'a pas une télécommande pour... il nous met dans le cœur son désir et c'est à nous maintenant d'obéir et de faire sa volonté.
Ok. Alors justement, vraiment précisément par rapport au Proverbe 21, verset 1, il est parlé du roi. Donc c'est vraiment le cœur du roi. C'est le roi. Même l'esprit, même le cœur du roi est entre les mains de Dieu.
Changement des lois ou voilà, il peut...
Voilà, les autorités, voilà. Exactement. Voilà. Même les présidents, exactement. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour les autorités, etc., de ce monde. Ok ? Ésaïe 40, versets 21-24, que nous dit qu'est-ce qui nous montre, comment on voit Dieu régner dans la vie des êtres humains ? Bah, c'est un petit peu ce qui rejoint notre explication. Je vais passer vite. C'est les dirigeants de ce monde qui sont entre ses mains, on le voit. À peine sont-ils en place, etc., qui peut les souffler comme il veut. Parfois, on a l'impression que Dieu peut être... il est cash, il balaye, il fait dessécher, etc. Mais je crois que un bon serviteur, il en prend vraiment soin. Et puis, oui, il s'occupe des dirigeants de ce monde. Et j'insiste qu'il veut qu'on soit aussi des personnes qui gèrent dans des hautes sphères. On l'avait entendu avec le message de Brian Houston le dimanche matin, ce message qu'on a vraiment eu le privilège d'avoir, parce que pas tout le monde a pu l'entendre. Et je crois que oui, il nous appelait à impacter toutes les sphères. Et Dieu est au contrôle de toutes les sphères. Donc c'est ça qu'on est en train de voir. Acte 17, verset 26, nous dit que tous les peuples de la terre sont entre ses mains. Donc il n'y a pas... rien ni personne ne lui échappe. Ils sont entre ses mains. Oui, Andrea ?
Dans ce verset, j'aime beaucoup le fait qu'il dit qu'il a mis des limites aux nations. Celui qui délimite les nations... Et dans la Bible, j'aime beaucoup quand il dit au peuple juif, partez au Canaan, voilà vos limites d'ici jusqu'ici, ne rentrez pas dans le territoire là, je donnais au fils d'Ésaü. Et ça me touche beaucoup parce que je me rends compte que c'est lui vraiment qui met les limites, pas nous, les frontières de nos pays, c'est tel qu'il les a dessinées, pas nous, malgré on croit que c'est nous.
Exactement, c'est vraiment lui. L'inspire.
Ouais. Et quand il donne le pays des Canaanéens aux Israélites, c'est pour nous aujourd'hui de voir la manière qu'on gère le pays dans lequel nous sommes. On peut vite faire remplacer.
Exactement. Je crois que Dieu va... Il y a un verset qui dit que Jésus est venu vraiment pour détruire toutes les œuvres du diable, mais pas le faire tout seul. On est la lumière du monde. Et je crois que Dieu va nous envoyer dans toutes les sphères pour renverser l'œuvre du diable et nous permettre de gagner, de prendre possession de ce qui nous appartient réellement. Alors, est-ce que vous avez quelques pistes, la question suivante, pour progresser dans votre prise de conscience que toutes ces choses sont entre les mains du Seigneur ? Et très précisément, très concrètement, dans l'action, qu'est-ce que vous pourriez faire pour y arriver ?
Je pense, comme ce que tu as dit avant, c'est, j'ai marqué « Cherche à vivre dans la paix, car Dieu est maître de toutes choses », donc arrêtez de s'inquiéter.
Ouais, j'entends faire des pas de foi, prendre les choses par la foi. Ézéchiel ?
Je pense que au bout d'un moment, faut laisser Dieu faire. Faut laisser les choses venir. Parce que Dieu, je pense que Dieu, il se montrera que pendant les périodes où ça va. Non, pas que, mais là, on va dire que là, il y a une parole. Je ne sais plus quel verset, mais que là. Réjouissez-vous dans les afflictions, les choses comme ça. Ce genre de versets-là. Ouais. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, Dieu, il se montrera. Il nous montrera ce qu'il est, ce qu'il peut faire. dans les moments où ce ne sera pas simple. Au bout d'un moment, je pense que dire je vais arrêter de m'inquiéter, ça viendra que quand on aura vu Dieu faire.
Alors c'est sûr.
Ouais, enfin ça, la foi grandira quand on aura vu Dieu agir dans les moments difficiles. C'est pour ça que j'ai mis en gros lâcher prise et j'ai mis laisser Dieu faire le taf entre guillemets.
Ouais, c'est une bonne chose.
Ouais.
Le laisser être au contrôle.
Après, j'ai repris mes réponses des autres versets parce qu'il est puissant, quoi. Et comme dit, il y a juste à dire vas-y, et les choses se feront d'elles-mêmes.
Ok, très bien. Jean, vas-y.
Ouais, c'est juste pour rappeler que une des solutions simples, hein, c'est la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais. Ce qui me blesse, c'est juste que, pas tous les passages, mais il y a une bonne partie des passages, on l'a presque lu. Moi, par exemple, je l'ai presque lu, mais j'ai comme l'impression que c'est maintenant que je commence à les comprendre, en fait. Donc, je crois qu'il faut méditer ces paroles, il faut les vivre, en fait. Et pour le vivre, donc il faut justement méditer ces paroles pour les vivre. Pourquoi, en fait, cette foi-là que je n'avais pas avant, en quelque sorte, je ne sais pas comment l'expliquer, quoi. Oui, puisse prendre essence, puisse prendre l'ampleur. Oui, comme ça, je puisse, ouais, je crois que c'est ça. Revoir ces paroles, méditer, pour que vraiment ça puisse.
Ça puisse venir à l'existence.
Voilà, puisse venir à l'existence, tout ça, quoi.
C'est la parole de Dieu qui va justement se manifester clairement dans nos vies. Et comme dit Jean, effectivement. On a besoin de la mettre en pratique. On a besoin de voir que ces versets qui sont sur du papier prennent vraiment vie en nous, parce que la parole de Dieu est vivante. J'avais une suggestion par rapport à ça, justement, pour être dans l'action et dire, OK, moi, ce que j'avais à cœur de faire, c'était demander pardon à Dieu, de ne pas l'avoir vraiment pris au sérieux. Toutes ces années, de dire, OK, bah, oh, ouais, peut-être que je ne savais pas. Et finalement, on peut dire, bah, vu que je ne savais pas, j'y peux rien. Mais Dieu nous invite comme disait Jean, à lire sa parole, à chercher les versets, à creuser. Et parfois, on a juste besoin de dire, Seigneur, franchement, là, pardon pour ça, et montre-moi. Et comme disait Ézéchiel, voilà, bon moment, envoie-moi un exercice, ou montre-moi dans la vie de quelqu'un d'autre quelque chose qui va me fortifier. Et on va même peut-être se tenir les coudes et on va avancer. Mathieu, tu avais une... Vas-y.
Non, j'allais aller dans le même sens. Ce que je disais, c'était pour moi la meilleure manière de trouver ça, c'est vraiment de s'arrêter quand on est dans une position de crainte et de commencer à sonder pourquoi on est dans cette crainte,
okay.
Afin de vraiment mettre les mots dessus, afin de confesser ce qui à Dieu, donc demander pardon et de pouvoir changer, quoi. Mais vraiment s'arrêter, pas juste savoir qu'il est propriétaire et tout ça. Mais que la transformation à l'intérieur soit produite. Donc s'arrêter et reconsidérer ses voies, en fait.
Ouais, nickel. Très bien. Ok. On va passer très vite sur le quatrième jour. Il y a des versets qui sont importants, mais on va les lire. Je vais les lire. Genèse 45, c'était ok, pardon, je suis passé du troisième jour au quatrième jour. Vous aviez des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Je pense que c'est relativement clair, mais peut-être que pas pour tout le monde. Ok, quatrième jour sur le net, ça va toujours?
Ouais.
Super. Quatrième jour, Genèse 45, versets 4 à 8. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. Ils s'approchèrent. Joseph reprit. C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. » Et je finirai ce verset, je le raccourcis. « Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. » On connaît cette histoire de Joseph et la fin glorieuse pour sa famille. Genèse 50, versets 19 à 20. « Mais Joseph leur répondit, « N'ayez pas peur, je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien. Il a voulu sauver la vie d'un grand nombre de gens, comme vous le voyez aujourd'hui. » C'est la fin glorieuse pour leur famille. Ils sont famine qui atteint le pays, et puis eux, ils ont tout ce qu'il faut. Romains 8, 28, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Ce verset est vachement connu, mais quand vous traversez un moment difficile, moi je vous invite à crier dans votre voiture, « Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et moi, je t'aime. Je suis candidat pour vivre ce verset, donc je m'attends à quelque chose de bien au final. » C'est dur de le voir, mais je le prends par la foi et je le déclare maintenant au nom de Jésus. Voilà. Et j'aime trop faire des choses comme ça, et on a besoin de prendre l'autorité qui nous est donnée avec la parole de Dieu. La question, alors justement, on va passer très vite. En résumé, donc dans tout ce chapitre, jour 3-4, on voit que Dieu règne. La deuxième part qui est à Dieu, c'est Dieu règne. Il est au contrôle, il a toutes les circonstances entre ses mains, il gère, il vient jamais en retard et il vient jamais en avance. C'est fou ça. Dieu ne vient jamais en retard, il vient jamais en avance non plus. Il vient au bon moment, toujours au plus tard, à l'heure. Je cite une personne que vous connaissez. Ok. On va terminer justement la leçon avec le cinquième et sixième jour. Et justement, dans cette dernière partie, j'aimerais qu'on découvre ensemble un fondement essentiel. Je vais moins vous laisser la parole, vous me pardonnerez, mais j'aimerais vous apporter quelque chose, un fondement que vous pouvez noter sur votre main. C'est la foi du moineau. On va l'appeler comme ça, la foi du moineau. Et on attaque tout de suite avec les versets suivants. Psaume 34, verset, c'est OK pour vous ? Psaume 34, versets 9 à 10. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Si vous êtes soumis, rien ne doit vous manquer. Si on voit du manque dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas soumis. Ouh, culpabilité, non. Bon, vous m'avez compris. C'est un peu pour vous détendre parce que je vous ai entendu. Matthieu 6, verset 31-33. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ? Ce sont les païens qui cherchent sans arrêt tout cela. Arrêtez ! Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Il gère, il contrôle. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Et le dernier verset que j'ai pris la peine d'imprimer sur une feuille A4 en caractère 53 et que j'ai placardé sur ma porte, quand je me lève tous les matins, je le vois, Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire et par Jésus-Christ. » Et Claudia, pour être témoin, quand elle est venue nous visiter un jour, j'étais dans la chambre en train d'hurler ça en prière dans ma chambre, tellement je voulais qu'ils prennent vie. Et puis quand je suis retourné dans le salon, ils étaient en train de se plier en deux avec Mathilde parce que je disais « Waouh, lui il a la patate !» Et il prend les choses à cœur. Donc, mais je le dirais souvent, oui, dans la voiture, je crie parce que je veux que mes oreilles soient débouchées avec la parole de Dieu et que vraiment je commence à vivre ces promesses. Et si on décortique ce dernier verset, il n'y a pas écrit « Dieu pourvoira à votre nourriture, à votre juste à votre nourriture ». Voilà, c'est déjà pas mal. C'est 3 repas par jour. Toute la vie, ça fait quand même pas mal, hein. Et oh. Non, tous vos besoins, tous vos besoins, selon sa richesse, ça nous amène à croire, est-ce que Dieu est riche ? À vous de répondre. Et il va le faire avec gloire. Quelque chose qui va... Il va pas le faire... Il va le faire avec gloire. Ça va être glorieux comment il va le faire. Et il le fait toujours par Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut prier au nom de Jésus. J'ai le droit de recevoir ces choses-là. Je te les réclame, Seigneur. Mais ce n'est pas contre toi, c'est contre le diable. Et je m'oppose à tout ce qui veut me faire croire par l'esprit de maman. Je prends tes promesses. Donc, c'était même pas dans mes notes, mais j'avais envie de le dire. Et je rajouterai encore ce verset pour bâtir le fondement, donc la foi du moineau. Matthieu 6, versets 25 à 29, on le connaît, mais je vais le lire en entier. « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, et au sujet des vêtements, on l'a lu tout à l'heure, dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas ? Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? Qui ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Mais pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une de ses fleurs. Alors, pour aller justement mettre ce fondement et solidement enraciner ce fondement, dans la leçon, dans le week-end qu'on a passé il y a 2 semaines, on a vu que le principe qui régit le système de ce monde, c'est... c'est acheter et vendre. Et le principe qui régit le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Et lorsqu'on donne, est-ce que vous êtes d'accord qu'on manifeste de la grâce à quelqu'un ? Dieu nous a même lui-même donné Jésus-Christ, son Fils, nous a manifesté de la grâce. Donc, lorsque je suis en train de donner de l'argent, je suis en train de faire quoi ? Je suis en train de prendre un principe qui est dans le système du monde, un principe qui est régi par Mammon, un principe qui est basé sur la notion d'acheter et de vendre. L'argent, il a été... Donc l'argent, je ne parle pas de la matière, je parle des billets, de la monnaie créée des hommes pour acheter et pour vendre. Donc ce qui a été fait pour faire ça, je suis en train de l'utiliser et de le faire rentrer dans quoi ? Dans la grâce. Je le passe du système de ce monde et je le fais rentrer dans la grâce. Quand je vais donner à Bruno, tiens Bruno, ça me tient à cœur, je te le donne. Je fais un acte de grâce, je prends l'argent, système du monde, et je mets dans la grâce. Et là, je suis en train de dire, hé maman, là, je suis en train de profaner tes valeurs et je suis en train de donner gloire à Dieu avec mon argent. Et c'est pour ça que c'est important. Et Dieu peut se glorifier avec notre argent. C'est pour ça que quand il est dit, attention, on peut pas servir 2 maîtres, Dieu et l'argent, ou l'argent dans le milieu chrétien, c'est pas possible. Si c'est possible, l'argent, quand on l'utilise à la gloire de Dieu, on prend l'argent du système du monde, on fait un acte de grâce, on le rentre dans la grâce, et là, mais ça glorifie Dieu. Et encore plus, si Dieu vous l'a mis à cœur, vous dites, oh, ça brûle en moi de faire ce don-là dans une œuvre, j'en sais rien, ou à quelqu'un qui est dans le besoin et tout, et reçoit ce... Ouh, c'est pas l'effet juste de la monnaie, la quantité que vous avez mis, c'est la grâce de Dieu qui vient... Et qui... il se prend un tsunami, le gars. C'est ou la personne que vous avez, ou l'œuvre. Voilà. Donc, en clair, on est en train de détourner le système que Mammon a mis en place. On le détourne. On lui dit, hey, ton système, nous, on a un meilleur système. C'est un système qui est imprégné par la grâce. Et quand on fait ça, on est en train de dire, Seigneur, c'est toi ma source. Et c'est plus Mammon ma source. C'est toi ma source et c'est Dieu ma source.
Alors, je viens de penser que faire ça, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, être fidèle dans les richesses injustes.
Exactement, exactement. Donc, on est en train d'obéir totalement à la parole de Dieu. Mais attention, si on fait ça, ça me pique, j'ai pas trop envie de donner, ou bien, surtout, si je donne, je vais avoir le paquet en retour, ça c'est clair. Mais surtout, Dieu va répondre à mes besoins, ça c'est bon, donc je vais le faire pour qu'il réponde à mes besoins. Tiens Bruno, allez avec plaisir, fais-toi plaisir, ciao. Et puis, Seigneur, nourriture, vêtements, je kiffe bien Zara. Voilà, là, on est en train de montrer que maman est en prise sur nous. Parce que si on s'attend à ce que Dieu réponde en retour à nos besoins, si on le fait pour ça, c'est là où c'est pas le... Alors attention, je nuance. Court a toujours dit, et je dis court, mais il se base sur la parole de Dieu. Il a dit, est-ce que vous vous attendez en retour quand vous donnez votre dîme? Et c'est là, je suis sûr que vous avez pensé tout ça par rapport à ce que je viens de dire. Quand on s'attend, quand on donne et qu'on s'attend à recevoir pour être une bénédiction plus loin, un instrument que Dieu va utiliser plus loin, il n'y a aucun problème. Mais si je donne et je m'attends à ce que mes besoins, gros ventre, voilà, comme ça vous allez retenir, je m'engraisse, oui c'est pour moi, c'est mes besoins, là c'est pas bon. Mais si je m'attends, oui, on a dit un agriculteur, s'il sème, ça ne sert à rien, de toute manière je sème, ça ne sert à rien, voilà. Là, oui, là on a le droit d'attendre en retour, de la récolte, la sème. Seigneur, là merci, tu m'as encore béni à fond. Oh, maintenant montre-moi qui c'est que tu veux que je bénisse, à qui je vais aller toquer, etc. Et là, oui, mais ça c'est un principe de Dieu. Mais l'autre n'est pas un principe de Dieu. La foi du moineau, c'est d'avoir totalement confiance en Dieu et totalement confiance qu'il pourvoira mes besoins parce qu'il m'aime. C'est ça le principe fondamental et c'est une grâce qu'il me fait parce qu'il est mon Père. Il n'est pas obligé, mais il l'a fait. Il n'est pas obligé, mais il l'a fait. Amen. Et ça, c'est le principe fondamental qu'on doit mettre sous notre maison, la maison qu'on est en train de construire au travers de cette formation. Le principe, les fondements, la fondation, c'est ça. C'est que j'ai tellement confiance que Dieu pourvoit mes besoins et parce qu'il m'aime. Et c'est pour ça que de creuser ce sujet va nous amener plus près du cœur de Dieu, parce qu'on va découvrir l'amour de Dieu. D'après le verset Matthieu 6, 26, l'approvisionnement des oiseaux ne dépend pas de leurs œuvres. Dieu les nourrit. Vous pouvez faire le taf que vous voulez, vous pouvez vous acharner dans l'église, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, même dans l'église, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez balayer toutes les rues en parlant de Jésus haut et fort. C'est pas pour ça que Dieu va faire plus. Les oiseaux, ils font rien, ils ont. Alors attention, Dieu nous demande de faire des choses. Mais comprenez-moi bien, il ne nous demande pas d'être dans l'action, il nous demande juste de savoir qu'il nous aime. De croire qu'au fond de notre cœur, on sait, on a l'assurance, et wow, c'est juste un papa qui nous aime. Et on s'arrête là, et ben, on a déjà tout compris. On est juste bien, notre relation avec Dieu est OK. Et Dieu veut plus pour nous, mais ça, c'est déjà la base. Il nous aime, donc il va pourvoir. Quand vous avez des enfants, pour ceux qui en ont, mais pour ceux qui n'en auront pas, vous allez voir que ben, on pourvoit. Ils font rien, nos enfants. Quand ils sont tout bébés, ils font rien, ils s'amusent, ils font des bêtises. En plus, ils font des bêtises. Ah ouais, tiens, ça me parle, ça. Ils font des bêtises, ils font des choses qu'on n'aime pas, mais pourtant, on leur donne à manger quand même. Ouais, je trouve que c'est bizarre. Enfin, moi, je le vis pas beaucoup. Mais vous comprenez. Vous comprenez que vraiment, Dieu prend soin de ses enfants. Et donc, tous les principes financiers qui vont suivre dans cette formation, ben, ils doivent s'appuyer sur ça. N'allez pas plus loin dans votre réflexion si ça, ce n'est pas un principe. Si, non, moi, je crois que Dieu, il gère, mais il ne gère pas tout à fait, etc. Voilà, je vous challenge d'avoir vraiment recherché cette assurance que Dieu m'aime et qui pourvoira à tous mes besoins. Donc, tout ce que je reçois est un don de Dieu. Ce n'est pas un dû, c'est un don de Dieu. Et que les besoins de base... On a dit qu'il pourvoira à nos besoins, la nourriture, le vêtement, le logement. Ça, c'est les besoins de base. Et après, il peut pouvoir plus large. Il est temps. Mais il a promis de pourvoir aux besoins de base, la nourriture, le vêtement, le logement. Et que surtout qu'on ait besoin de comprendre que ma source, c'est Dieu. Pourquoi je dis ça? Si mon employeur est ma source de revenus, lundi, je vais au travail, Manetta, crise économique, on va devoir vous licencier, désolé. Ouh, panique, crainte, comment je vais faire pour subvenir à ma famille? Oh là là, ça va être difficile. Oh, maintenant je suis dans une misère pas possible. Oh, là, oui, mon employeur était ma source. J'ai mis mon espoir, c'est lui qui me donnait mon salaire. C'est là, vous vous souvenez, on en a parlé au début, votre salaire, c'est qui le donne? Mais si Dieu est ma source, et ça on va creuser ensemble dans la formation, si Dieu est ma source, on comprend qu'il a délégué le lycée Émile Matisse, la région Grand Est, pour me donner un salaire, parce qu'il va utiliser ce moyen-là. Mais il n'est pas obligé. Mais il a choisi de le faire, jusqu'à présent. Et s'il y a un problème, s'il y a une crise, monsieur Manetta, vous êtes licencié, aucun problème. Je sais que mon Dieu, il va ouvrir les portes. Il me connaît ou il ne me connaît pas? Bien sûr qu'il me connaît. Et ça, j'en ai l'assurance. Et il y a un nouveau canal de bénédiction qui va s'ouvrir. Par contre, ce n'est pas ma responsabilité. C'est là où on voit que Dieu est propriétaire, que Dieu règne. Ce n'est pas ma responsabilité. Il va ouvrir une porte. Peut-être ce ne sera pas une entreprise. Peut-être c'est quelqu'un qui va venir, comme dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, l'histoire de la veuve, elle n'avait plus rien chez elle. On l'a vu. Est-ce que ce n'était pas une vidéo méga bénie, cette vidéo qui nous a montré courte? On voit la veuve vraiment qui n'a plus rien, les créanciers viennent, nanana, et puis et là il y a un miracle qui se produit avec le peu d'huile qu'elle a chez elle, parce qu'Élisée annonce ce miracle, elle dit va faire ça et tu verras. Donc le canal que Dieu utilise, il peut être varié, il peut faire un miracle avec ce que vous avez. Je crois que le miracle est dans nos maisons souvent, très 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 souvent. Dieu a déjà placé un miracle dans notre maison, il suffit de le déclencher pour qu'on vive une bénédiction extraordinaire. Soit ça, ou en 1 Roi 17, verset 6, Dieu il envoie les corbeaux pour donner de la viande à Élie. Bon, alors, c'est vrai que l'entreprise de livraison, elle n'est pas très appétissante, mais il le fait, il a à manger, quoi. Et je crois que c'est encore d'actualité, et je pense que parmi vous, vous avez déjà vécu des expériences où Dieu, d'un coup, il y a un voisin qui sonne, alors que vous avez prié pour le repas, vous n'avez rien sur la table, j'en sais rien. Mais Dieu a-t-il changé depuis l'époque où il bénissait nos grands frères et nos grandes sœurs, et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que Dieu, pour vous, a changé? Mais c'est, dites-le vous à vous-même, croyez-le. Et pour finir, j'aimerais lire trois versets. Job 1, versets 20 à 21. « Alors Job se leva, il déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre. Le front dans la poussière, il déclara, « Je suis sorti tout nu du ventre de ma mère, je retournerai nu au ventre de la terre. » C'est ça. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur dans tous ses malheurs. Job ne commit ainsi aucune faute, il ne dit rien d'inconvenant contre Dieu. Jérémie 27, verset 5, « J'ai montré ma force et mon savoir-faire en créant la terre, ainsi que les hommes et les bêtes qui y vivent, et ce que j'ai créé, je le donne à qui je veux. » Matthieu 25, 14 à 15, « Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un cinq cents pièces d'or, et à un autre 200, et un troisième 100, à chacun selon ses capacités, puis il partit. » Alors oui, Dieu est notre source, et c'est un principe valable pour chacun d'entre nous de manière équitable. Ce principe, il est valable pour chacun d'entre nous. Mais les quantités, les biens, les ressources, enfin tout ce que vous voulez mettre dans, que Dieu va nous donner, qui nous accorde, parce qu'on a compris maintenant qu'il nous les donne, elles ne sont pas distribuées de manière équitable. Oh, Dieu, t'es injuste. Non. Est-ce que vous pensez que Dieu, les raisons qu'il a de faire ça, c'est parce qu'il a une petite parcelle de son cœur qui fait du favoritisme? Non. Est-ce que vous pensez que c'est parce que ça c'est un fils, ça c'est une fille qui le mérite? Allez, on y va. Est-ce que vous pensez qu'il agit au mérite? C'est une bonne question. Parce que j'ai donné tellement que waouh, il va me bénir, c'est clair. C'est... Enfin, j'ai le droit de réclamer une bénédiction parce que j'ai... moi, j'ai donné tellement, quoi. Moi, mon portefeuille, il chauffe. Non, c'est exactement ça, j'ai entendu. C'est nos capacités. Et nos capacités, oui. On... Alors, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire, on n'est pas lésé quand on arrive au monde et à dire, bah, lui, voilà, lui, il gère un peu moins bien, lui un peu. Ce n'est pas un problème. On a moyen de s'améliorer, on a moyen d'apprendre, on a moyen de connaître la parole de Dieu qui est valable pour tout le monde. Et les principes sont valables pour tout le monde. Cette foi du moineau, ce fondement-là, est valable pour tout le monde. Sinon, là, oui, Dieu est injuste. Mais il te l'offre. Il te l'offre à toi, Patrick. Il te l'offre à toi, Francine, à toi, Rebecca. C'est à nous tous, c'est aucun problème. À nous de mettre en pratique. Et oui, nos capacités diverses en fonction de l'un et de l'autre. Et on va expérimenter des choses peut-être différentes. Mais heureusement, Seigneur, que tu ne me donnes pas plus que ce que je peux gérer. Parce que sinon, je vais être découragé, je vais avoir un poids qui est peut-être trop lourd à porter, etc. Donc, Dieu sait pourquoi il le fait. Et s'il le fait comme ça, c'est pour notre bonheur et notre épanouissement. Donc, on peut louer Dieu pour ça et pour les différences. Si ton voisin, il... Punaise ! Il a une super entreprise qui fleurit, qui tartine, et tu vois qu'il a du profit, il peut s'acheter une maison, il peut avoir une meilleure voiture que toi. Béni, Seigneur. Par contre, apprends-moi ce que lui, il a compris, que moi, je n'ai pas compris. Je suis open, mais merci, waouh, merci pour lui et tout. Alors, j'avoue que c'est pas facile. Pourquoi ? Parce que l'orgueil vient. Et on est au bon endroit, je le redis encore, on est au bon endroit pour ça. Et pour répondre à la dernière question du jour 6, quelle devait être notre perspective concernant ceux qui possèdent plus ou moins que nous ? Là, je viens d'en parler un petit peu. C'est surtout de ne pas nous enorgueillir d'avoir plus. Moi, le frère là qui semble être dans la misère, fauché comme un... lui, il ne sait pas ce que c'est d'être riche, tout ça, c'est la classe. Ça, c'est une très, très mauvaise attitude. Mais je sais que la plupart d'entre nous, on n'a pas ce genre d'attitude. Et ne pas être envieux, ne pas envier ceux qui ont plus. Et moi, je vous le dis, j'ai récemment demandé pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai un cœur pour toi. Je vois des choses énormes pour ton royaume. Et punaise, c'est eux là-bas, Facebook, c'est j'en sais rien, tous ces milliardaires. Vous regardez Capital ou Enquête Exclusive le dimanche, vous allez en prendre plein la vue. Des gens qui se font livrer des doudous par hélicoptère et tout ça, ils payent 700€ cash, bim, bah, c'est démesuré. Et moi, je me dis, Seigneur, moi, j'aimerais tellement avoir cet argent et tout, et je l'investirais dans ton royaume. Purée, vous avez entendu comment elle s'appelle une dame super méga riche qui avait 19 milliards de richesses personnelles qui est décédée là. Bettencourt, voilà. Quand j'ai entendu ça, je dis, mais elle peut se payer des bâtiments d'église trois fois la taille d'Oswald quand elle veut comme ça. Mais, Seigneur, et je marchais sur le long d'un sentier, d'un ruisseau, et je dis, Seigneur, si dans mon cœur, tu as trouvé juste un petit peu un soupçon d'envie par rapport à ça, de pas de confiance en toi finalement, et de dire, waouh, bah, eux, ils auraient pu, mais moi, je peux pas. Jean-Luc, tu n'as encore rien vu, qu'est-ce que tu racontes ? Et bien, je dis, Seigneur, je te demande pardon, et vraiment, je veux plus être comme ça. Et j'y travaille, mais j'ai besoin, et je vous le dis, je suis là devant vous, j'enseigne des choses, mais oui, j'ai besoin de vivre, que Dieu lave mon cœur et dise, ok, on a quand même ces choses à vivre ensemble. Attends, mais maintenant, je te prépare d'abord. Et j'aimerais juste mettre au tableau, en résumé, le troisième point qui est la part de Dieu, c'est Dieu pourvoit. Et j'ai besoin, moi aussi, de vraiment avoir confiance, de chercher encore plus sa face. Et pour conclure donc ce chapitre, la part de Dieu, on a vu qu'il est propriétaire de tout. À ne pas marcher sur ses plates-bandes, parce que sa propriété ne va pas nous la céder, mais par contre, il va nous associer à toutes ses propriétés et plus on va avoir les capacités de gérer, je crois qu'il va nous, il va vraiment nous associer à ses plans. Il a des plans prévus d'avance. Il n'est pas surpris. Je vois comme une table où il y a des plans qui sont prévus pour chacun d'entre nous. Si on choisit de les prendre, eh ben on va vivre le succès. Dieu règne. Personne ne lui enlèvera son règne. Aucun homme, certains ont essayé de prendre sa place, de dire qu'il est mort, de dire que c'est fini, on n'entendra plus parler de Dieu, etc. Et personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui. Et grâce à vous, ils ont encore du pain sur la planche. Amen. Et le troisième, c'est que Dieu, on vient de le voir, Dieu pourvoit. Il pourvoit à tous nos besoins. Il ne pourvoit pas à tous nos caprices. Parfois, je prie, Seigneur, si ça, c'est un caprice. Ah, j'ai juste besoin de te l'exprimer, Seigneur. On parle, je suis un enfant, je te l'exprime. Oh, j'aimerais vraiment cette voiture de sport et tout. Papa, ouvre les portes, j'en sais rien, je te servirai encore plus. Nanana. Voilà, et vous donnez toutes les raisons. Mais si c'est un caprice, tu l'entends, mais tu le mets de côté et puis tu m'apprends les choses. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Et j'en ai fini ici. Si vous avez des questions, on a... Ouh, furée. 10 minutes, 8 minutes pour être dans le timing. Et j'ai encore quelques explications en dehors de la leçon à vous donner. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu Elisabeth.
Je voulais juste revenir sur le troisième point où tu dis qu'il ne faut pas que donc on soit envieux vis-à-vis de ceux qui ont plus, mais il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas juger ceux qui ont moins et à être orgueilleux par rapport à ceux qui ont moins, dire ouais, « Ah ben, regarde-moi à quoi je suis arrivé, puis toi, regarde où tu es. » Donc, il faut qu'on fasse aussi attention à ça. C'est l'orgueil.
Exactement. Exactement. Quelqu'un a une question? Pas de question. C'est que c'était clair. Merci. Ok, bah, la leçon est finie pour aujourd'hui. Maintenant, Josué, tu es toujours là? Clémence aussi? Ah, super. Gary, c'est toujours bon pour toi?
Oui.
Génial. On vous voit en image et tout. On voit la tête de Josué, elle est vachement expressive. Gary, t'es vraiment joyeux et tout. Est-ce que vous avez des questions?
Non, ça va.
Pour vous, c'est ok.
Bon pour moi.
Gary aussi, ouais.
Ouais, c'est bon.
Super. Ok, alors, la semaine dernière, je vous avais parlé la façon en fait dont cette formation est créée. Donc c'est un ministère Compass qui l'a mis en place. Et ils ont vraiment eu à cœur que les liens entre les personnes de la formation soient forts, soudés, etc. Et notamment qu'on puisse prendre à cœur les sujets de prière des uns et des autres. Et je vous avais demandé d'être très précis dans la formulation de ces sujets de prière. J'aimerais vraiment vous donner maintenant un peu plus d'infos par rapport à ça et comment on pourrait procéder. Et pour avoir creusé le sujet cette semaine, le fait de prier pour des sujets de prière, ce n'était pas le fait de le faire ici, tous ensemble, on prie les uns pour les autres. On peut, si on a du temps et si vous avez le souhait, on peut un petit peu déborder, on peut. Mais le but de la façon de faire, disons, que j'aimerais vous suggérer n'est pas la suivante, mais qu'on puisse, pendant la semaine, prier les uns pour les autres, mais d'une certaine manière. Alors, moi, perso, quand j'ai fait la formation, c'était difficile de prendre à cœur une personne que je ne connaissais pas trop, ou un petit peu, ou prier pour tout le monde, voilà, parce qu'on avait les sujets de prière de chacun par email. Alors, merci à ceux qui m'ont envoyé leurs sujets de prière. Ils ont été que très peu, mais ce n'est pas grave. Maintenant, je vous arrose d'explications. L'idée, ce serait de faire des petits groupes avec des responsables de groupe qui ont à cœur déjà le thème de la prière. Donc, ces responsables de groupe, ce n'est pas une fonction ou ce n'est pas un titre que je vous donne, privilégié par rapport aux autres. C'est simplement techniquement pour organiser ces petits groupes et pour être derrière les personnes et leur dire, voilà, peut-être prendre de l'initiative. Donc, certaines personnes se reconnaîtront. Voilà, c'est ce que je vous suggère. On n'est pas obligé de faire ça, mais ce serait super bien. J'ai fait les groupes par avance et avec à chaque fois un responsable. Est-ce que ça vous conviendrait de faire ça? C'est des petits groupes, donc ça permet en fait de connaître un peu mieux les personnes qui sont dans votre groupe. Peut-être la semaine, alors c'est là où je laisse vraiment l'entière liberté de la façon de faire. Si vous voulez vous rassembler, si vous voulez faire une soirée, on prend un repas ensemble, puis on va prier vraiment pour les sujets, ou si vous voulez vous donner des coups de fil, ou des SMS, ou un groupe WhatsApp. Il y a peu importe, ça c'est vraiment libre, pourvu que dans la semaine, il y ait des prières qui montent au ciel, et que Dieu, quand vous priez de façon précise, réponde précisément aussi. Et que vous puissiez avoir des témoignages au fil des séances qu'on vit. Vous n'êtes pas obligé de donner des sujets en rapport avec la formation. Ça peut être, j'en sais rien, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse être ensemble et puis prier les uns pour les autres. Okay ? Donc, pour éviter que ce soit un gros groupe et puis que ce soit difficile de gérer, on le ferait par petits groupes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, je vous enverrai un email pour savoir dans quel groupe vous êtes et aux responsables, s'ils le souhaitent, donc on va voir ensemble, d'animer ces groupes durant la semaine et puis de me faire un retour. Ça m'évite de parler avec 30 personnes, j'ai juste quelques responsables et puis comme ça roule bien plus simplement. Ça marche pour vous ? Alors je vais faire l'inverse. Est-ce que quelqu'un est complètement opposé et complètement pas d'accord ? Papa, tu gères ? Ok, super. Je vous tiens au courant, je vous envoie un email et puis on roule comme ça. Je vais prier pour finir la séance, pour vous envoyer dans le flot de la vie. Seigneur, je te remercie pour cette soirée. Je te remercie, Père, de prendre tout ce qu'on a entendu et de l'arroser maintenant encore plus pour que ça puisse grandir et puis que sur la semence, on y voit un début de pousse, que ça sorte de terre, mais que le soleil n'ait pas suffisamment de puissance pour le cramer, que ce soit vraiment, Seigneur, ta parole encore qui vient faire pousser et pousser encore, et que ça porte beaucoup de fruits. Et je crois, et j'appelle à l'existence dans la vie de toutes ces personnes qui veulent s'investir dans cette formation, de près, de loin, que vraiment ça porte beaucoup de fruits. Ce soir encore, Seigneur, tout l'enseignement, tout ce qu'on a reçu, que moi aussi, Seigneur, je puisse le mettre en pratique comme un bon intendant et que tous ensemble, on vive des expériences avec toi et que ça glorifie le beau nom de Jésus-Christ. J'ai prié en son nom et je crois que ça va se produire. Amen. Merci beaucoup. Je suis vraiment content que vous soyez venus aussi nombreux parce qu'il y en a des emplois du temps qui sont un petit peu difficiles. Donc voilà, passez une bonne soirée. Attendez juste 20 secondes pour qu'il soit 21h quand même, s'il vous plaît. Voilà, merci à vous, Josué et Clémence et Gary sur le net. On vous envoie tout ça par mail, on vous tient au courant. Et puis toutes les personnes qui n'ont pas été là, on vous envoie le lien de la séance d'aujourd'hui. Bonne soirée en tout cas à vous et à très bientôt. On vous tient informés.
Yeah.
Bye bye.